Revue de presse de l'April, semaine 15, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, qu'est-ce qu'on a au sommaire, mon bon Manu ?
On a une quinzaine d'articles en tout et 7 principaux. Donc, on va vous parler de Brocas, le Loir-et-Cher. On reparle de l'analyse sur l'ADOPI et VLC. L'OEB qui nous reparle de brevets logiciels, quel bonheur. L'Upstream University, l'affaire des CRI. Et pour finir, un bel exemple de passage au libre pour un étudiant.
Sud-Ouest, Opération Libre a tenu ses promesses, un article de Jean-Marie Tinarage. Donc, deux articles sur des actions locales de Gull.
Alors déjà, pour le premier, on parle de Brocas, hein, donc une petite ville très connue, n'est-ce pas, qui est pas loin de...
Je sais pas, en Bretagne en tout cas.
Dans les Landes, donc. C'est à côté de Mont-de-Marsan, et donc absolument pas en Bretagne, mais il y avait des Bretons quand même.
Bah oui, des Bretons, des Alsaciens, parce que justement, il était question de faire de l'open data sur cette petite ville de quoi 1000 habitants. Ils ont fait un tour en ULM et ils ont cartographié, montré plein de choses et retravaillé la page Wikipédia du site.
Donc ça change un peu des très connus Install Party et autres qui étaient très réservés au milieu du geek. Et là, ça s'est ouvert à l'extérieur, des gens sont venus, ça a permis de découvrir la région et aussi tout l'environnement open source et logiciel libre.
C'est le GUL Landinux qui a organisé ça. Si ma mémoire est bonne, ils avaient édité un guide, une sorte de catalogue du logiciel libre bien avant qu'on le fasse à l'April et qui avait eu beaucoup de succès aussi. On leur a tout piqué en fait. Nouvelle République, acteur du futur numérique, un article de la rédaction. Donc là, on reste sur les actions locales et on est dans le
Loir-et-Cher, parce qu'il s'agit justement d'une opération Loir-et-Cher 2020 qui nous parle de Labs 41. Alors 41, peut-être pour le nom du département.
Ouais, ça doit être ça. Donc en fait, ils ont mis en place des groupes de travail, donc ils appellent ça des Labs 41. Donc ça tourne à peu près là, autour de l'open data, de la DOA et l'internet, le web et l'emploi, et les institutions et les logiciels libres. Donc c'est un peu dans la même optique que Brocas, c'est d'ouvrir au grand public, tout le monde informatique et numérique en général, et de faire des activités qui sortent un peu de l'ordinaire.
Voilà, donc là, c'est plus une opération officielle avec un département derrière et plusieurs modules, dont un qui est vraiment tourné logiciel libre. Donc c'est bien sympathique. Et en tout cas, c'est intéressant de voir qu'à l'échelle d'un département, il y a comme ça une vraie politique par rapport au numérique et qui voit loin, hein, puisque 2020, c'est quand même un horizon qui n'est pas tout à côté. Ça montre qu'on peut se prendre par la main et donc ça, c'est très beau. VLC Blu-ray, voilà à quoi devait répondre l'ADOPI. Un entretien avec Marie Duponchel. On doit même dire maître Marie Duponchel puisqu'elle est avocate désormais.
Et oui, n'est-ce pas, hein, on l'a connue dans d'autres lieux au sein de l'April, parce qu'elle a travaillé avec nous. Et là...
Elle était stagiaire,
donc elle a fait de bonnes classes, puisque là maintenant, elle est une référence pour parler des MTP, mesures techniques de protection.
Elle était stagiaire à VLC avant, donc elle connaît vraiment bien son sujet, et elle fait une thèse sur ces questions-là. Et donc voilà, c'est quelqu'un de très pointu.
Mais pour le coup, justement, elle a l'air de descendre l'ADOPI et la décision qu'elle a fournie.
Voilà, donc on en avait parlé la semaine dernière, l'ADOPI a enfin répondu à la question que VLC avait posée à propos des protections des menottes numériques.
Il y a un an.
Il y a un an, voilà, donc ça a mis du temps. La réponse, c'est pas vraiment une réponse. Ça dit que oui, potentiellement, VLC a le droit d'être interopérable avec ce genre de logiciel, enfin de protection numérique. Par contre, faudra peut-être passer à la caisse, peut-être qu'il faudra pas le faire en open source et en libre. Et puis en plus, de toute façon, c'était pas à eux de répondre à la question comme ça. Faut d'abord essayer de se prendre par la main et d'aller voir directement les fabricants et les constructeurs. Et potentiellement, si on se fait claquer la porte au nez, ce qui est à peu près sûr d'arriver, de reposer la question de manière plus officielle à l'ADOPI, qui prendra peut-être des sanctions. Voilà, beaucoup de conditionnels, très peu d'actions.
Bon. Voilà, c'est en gros, prenez le chemin le plus long, le plus difficile et le plus coûteux, ne nous embêtez pas. Donc Maître Duponchel nous fait un décortiquage très pointu et très fouillé, donc c'est intéressant. C'est très clair dans la façon dont elle rédige ça. Il faut s'accrocher un petit peu parce que c'est pas simple, mais elle a son franc-parler, donc ça fait plaisir.
Oui, moi je recommande d'aller jeter un œil. Il y a quelques avancées parce qu'en fait, l'ADOPI a quand même laissé passer certains points, quelques informations. Alors certes, la vie en entier était peut-être simplement mauvais, mais en se basant sur ces points, il y a moyen d'avancer, ce qui n'est pas si mal, notamment des choses. Un truc tout bête, il semblerait qu'on ait le droit de casser des MTP si jamais les dates de commercialisation sont intéressantes pour nous, c'est-à-dire que si c'est lointain, si la sortie d'un film est lointaine par exemple, c'est moins grave de casser une mesure technique de protection. C'est ce qu'elle relève dans cet avis, ce qui est un peu bizarre de notre point de vue, mais bon.
Elle dit quand même que c'est stupide, mais voilà. Donc allez voir cet article, il vaut le détour et il vaut l'attention nécessaire pour s'accrocher à sa lecture. Numérama, l'OEB distingue un brevet logiciel pour son prix de l'inventeur 2013, un article de Guillaume Champeau.
Le meilleur article de la semaine, au moins. Donc je commence tout de suite avec l'introduction qui est pas mal en tant que telle. Voilà. En principe, les brevets logiciels sont interdits en Europe. En pratique, l'Office européen des brevets en accorde régulièrement. Donc là, justement, il s'agit d'un brevet en particulier qui est super intéressant.
Donc c'est pas un brevet directement, en fait. C'est l'OEB qui a attribué un prix, le prix du meilleur inventeur européen 2013. Et elle a décerné ce prix à un chercheur qui a breveté un système de chercheurs. Non. À quatre chercheurs qui ont breveté un système de traduction, donc c'est un pur brevet logiciel, et donc l'OEB a rien trouvé de mieux que les déclarer meilleur inventeur 2013.
Opensource.com is training to become a better contributor, worth considering. C'est en anglais, hein. Une interview menée par Jen Wake de notre grand ami Loïc Dachary.
Estimé ami, et on appréciera ton accent anglais qui est tellement agréable.
C'est facile de critiquer, mais c'est beaucoup plus amusant de se moquer. Je constate que tu pratiques.
Oui, c'est toujours un plaisir, hein, c'est tellement facile. Donc ça n'empêche, l'article est vraiment pas mal, ça parle de Upstream Universities, qui est une initiative de notre cher Loïc, pour faire en sorte qu'il y ait plus de contributeurs au logiciel libre.
Donc en fait, c'est de prendre par la main des développeurs, des futurs contributeurs au logiciel libre, de leur donner un objectif. Donc ils vont choisir un sujet, et c'est vraiment pour faire des présentations, mettre en place toute la gestion de projet qui va autour, et puis aller implémenter la fonctionnalité ou la correction de bugs, et participer, et republier tout ça auprès des éditeurs originaux. Ils sont encadrés pour ça, c'est un peu l'équivalent du GSOC en version libre, on va dire, quoi. Donc Google Summer of Code, qui est le même principe financé par Google.
Donc plein de bonnes choses. On découvre un peu les fonctionnements. On pourrait croire que, par exemple, c'est facile de contribuer. Et oui, il le dit, c'est facile de contribuer. Mais il y a plein de blocages dans les entreprises qui sont idiots, hein, globalement, mais qui sont là culturellement depuis très longtemps. Donc justement, c'est une façon d'avancer et de profiter des gens qui sont déjà dans un projet et qui sont des experts, d'une manière ou d'une autre, de faire en sorte que vos propres développeurs, si vous êtes dans une entreprise, soient chapeautés un petit peu par ces gourous. Donc il n'y a rien de tel pour bien travailler. Donc, puis il y a d'autres raisons qui font que c'est intéressant. Upstream University, je pense que c'est une bonne initiative qui va peut-être déplacer un petit peu ses habitudes et les changer, parce que voilà, on met en commun, eh bien on n'en retire que des avantages à court et moyen terme. Donc il faut aller dans cette direction.
ZDNet.fr, affaire des séries Wikipédia, le ministère de l'Intérieur dément toute menace. Un article de la rédaction. Donc on revient sur cette affaire là dont on parle depuis deux semaines ou une semaine, je ne sais plus. Donc hein, pour un petit rappel rapide des faits, il y a un article sur un truc de la Défense dans lequel il y a des informations qui ne devraient pas y être a priori. Et la DCRI, hein, qui est, je le rappelle, le mélange entre les renseignements généraux et la DGSE, a essayé d'intimider, enfin même a réussi à intimider un administrateur de Wikipédia. Et voilà, l'affaire a fait du bruit. Donc, dernier rebondissement.
Les derniers rebondissements, donc déjà le ministère de l'Intérieur rejette toute notion de menace ou autre. Ils ont dit qu'à partir du moment où il y avait potentiellement une procédure judiciaire lancée derrière ça, et qu'en plus ça touchait la sécurité nationale, ne pouvait pas avoir de menace. Ils ont juste essayé de rectifier le tir. Donc apparemment, il y a une vidéo qui a été diffusée sur la télé, et qui avait, pendant une fraction de seconde, un boîtier un peu confidentiel qui aurait été aperçu. Et cette vidéo-là a été reprise par Wikipédia, et la DCRI aurait voulu masquer un peu tout ça et faire étouffer l'affaire. Bon, apparemment, ce qui est bizarre, c'est que la vidéo est toujours en ligne, et qu'ils ont demandé à censurer Wikipédia.
Les gens de Wikipédia estiment que l'intimidation était bien là, ils sont pas d'accord avec le ministère de l'Intérieur, et ils rappellent qu'ils ont toujours été présents à chaque fois qu'ils ont été sollicités sur ces choses-là, que leur objectif c'est de respecter la loi, et qu'ils y mettent beaucoup d'énergie. Et du coup, ils apprécient pas trop cette affaire-là, et on les comprend. Framablog, du projet étudiant au navigateur web, la trajectoire d'un développeur open source. Une interview faite par Goofy. Donc, il s'agit de l'interview de David Roska, qui est donc un jeune développeur qui développe un navigateur web, rien de moins.
Voilà, il s'est lancé dans un truc qui paraît énorme, qui fait peur à tout le monde. Il l'a fait en suivant un petit peu ses bonnes idées. Donc il a dû le refaire, hein, d'ailleurs, parce que le langage initialement choisi n'était pas forcément idéal. Mais il avance et son truc est en place depuis quelques années. Il a des contributeurs, ça a l'air d'être vraiment pas mal.
Et tout ça en plus est parti d'un projet un peu scolaire. Il s'est lancé dans l'idée de faire un navigateur quand il était encore en école. Et ça a bien pris, ça a bien fonctionné, et comme l'a dit Manu, il y a beaucoup de contributeurs qui sont arrivés, aujourd'hui c'est quelque chose qui a l'air de bien fonctionner, un navigateur qui s'aligne bien par rapport aux autres, donc on verra bien ce que ça donne.
Donne le nom du navigateur ?
C'est Kubzilla, donc quelque chose de très léger, hein. C'est l'objectif de ce navigateur, c'est de faire quelque chose de super léger, et qu'il reste, parce qu'on se souvient que Firefox, c'était un peu son mot d'ordre au début, et aujourd'hui, c'est effectivement devenu une grosse machine.
Oui, enfin, c'est très relatif, mais en tout cas, voilà. L'article est pas mal, allez jeter un œil si vous voulez voir le parcours qu'on peut pratiquer pour contribuer à du logiciel libre. Upstream University, c'était une façon de le voir, mais là, on le voit vraiment de manière humaine. On suit son parcours à lui, un étudiant qui continue à étudier par ailleurs et qui a fait quelque chose d'assez important.
Très bien, et eh ben merci à vous deux, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut tout le monde.